Les infos.
Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga, 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Lutte contre l'insécurité au Burkina, des armes vendues récemment au gouvernement burkinabé se retrouveraient entre les mains de groupes armés. C'est le rapport d'enquête de Amnesty International. L'organisation dit avoir identifié des armes de fabrication serbe dans des vidéos publiées par des groupes armés opérant dans le Sahel. Les détails dans ce journal. Audience à la présidence du Faso Roch Kabore reçoit le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie en fin de mission. Mohamed Kaloun est allé remercier le président du Faso pour l'excellence des relations entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, la patiente guinéenne atteinte du virus Ebola est guérie. Les autorités ivoiriennes annoncent que les deux tests biologiques réalisés en 48 heures déclarent la patiente négative au virus. Bien installé, le journal sur Radio Omega. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette information en bref sur la sécurité au Burkina Faso. Des armes qui ont été vendues récemment au gouvernement burkinabé se retrouveraient entre les mains de groupes armés opérant dans le Sahel, ont indiqué des experts en armement de l'organisation Amnesty International dans un rapport d'enquête publié hier mardi. Ces experts disent avoir identifié des armes de fabrication serbe dans des vidéos publiées par des groupes armés opérant dans le Sahel, notamment un groupe affilié à l'organisation État islamique qui a revendiqué, disent-ils, la mort de 700 de civils. Amnesty International dit avoir recueilli et analysé plus de 400 contenus numériques en provenance du Burkina Faso, du Mali, dont des photos et des vidéos authentifiées publiées sur les réseaux sociaux par des membres de groupes armés entre janvier 2018 et mai 2021. Ces images montrent des stocks d'armes ainsi que des fusils entre les mains des combattants de divers groupes armés de l'EJS, le GSIM, des Dozo, les volontaires pour la défense de la patrie, les Kolwego et Dan Abassogou, à la fois du Mali et du Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso le 17 février 2017, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou est en fin de mission. Ce mardi, Mohamed Kaloun est allé donc remercier le président du Faso pour l'excellence des relations entre les deux pays. Le diplomate tunisien a saisi l'occasion de cette audience pour faire le point de la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie.
J'ai fait le point avec son excellence sur les avancements de relations bilatérales et surtout j'ai fait un bilan sur la coopération bilatérale pendant mon exercice ici, c'est-à-dire pendant 4 ans et 6 mois. Comme vous savez, j'étais le premier ambassadeur résident ici au Burkina Faso parce que ma mission essentielle était d'ouvrir une ambassade résidente ici. Et depuis, on a réalisé beaucoup de choses sur le plan bilatéral. J'ai marqué un dynamisme bien accéléré sur le plan d'échange de visites de hauts responsables des deux pays. Malgré la COVID qui a freiné un peu le rythme des contacts et des visites bilatérales entre les deux pays, on a essayé de maintenir un niveau respecté de relations, de coopération, de contacts entre les deux pays, même parfois sur le plan virtuel. On a l'ambition de renforcer davantage la coopération et surtout, j'ai appelé que la commission mixte entre les deux pays, c'est-à-dire la prochaine session, doit tenir le plus tôt possible ici au Burkina Faso. Je crois que cette commission sera la bonne opportunité pour évaluer la coopération entre les deux pays et pour aussi élargir et signer d'autres accords et même d'essayer de trouver la solution des problèmes qui entravent la coopération entre les deux pays.
À l'instant, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie au Burkina Faso en fin de mission, Mohamed Kaloun, qui a été reçu en audience par le président du Faso. Et à sa sortie, Roch Kabore a aussi reçu le rapport général d'activité du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et l'installation de ses membres en mai 2018. À sa sortie d'audience, le professeur Domba Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil du dialogue social, livre l'essentiel des échanges qu'il a eu avec Roch Kabore. Nous l'écoutons.
Ce rapport contient donc les activités que nous avons faites. Il s'agit de renforcement des capacités des acteurs, de règlement également des questions, des tensions dans le domaine du travail et de la sensibilisation. Et c'est voilà un peu succinctement le contenu du rapport. Nous avons également remis au président du Faso un fascicule que nous avons fait concernant la création du Haut Conseil du dialogue social. Parce qu'il faut couper court à un ensemble de rumeurs qui font croire que c'est le gouvernement qui a décidé de créer l'institution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les acteurs du monde du travail ont pris part à ce processus de création du Haut Conseil. L'historique donc retrace ça et permet à tout un chacun d'avoir des idées claires sur la question. Ça permet de couper court aux différentes rumeurs.
Et merci de suivre le journal. Dans la ville de Sia, le SPCONAREF, Commission nationale pour les réfugiés, a organisé hier mardi un atelier de sensibilisation. Un atelier au cours duquel il a été question de formation et d'évaluation des connaissances sur les droits et des voies des demandeurs d'asile et des réfugiés au profit des forces de défense et de sécurité à Bobo-Dioulasso. Les détails avec Antoine Bonny.
Des forces de défense et de sécurité s'informent et se forment sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il s'agit pour le SPCONAREF, secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, de coordonner ses actions avec les FDS pour mieux protéger cette couche de la société. Maxime Bangali est le secrétaire permanent du CONAREF.
Nous sommes dans une situation sécuritaire préoccupante et les réfugiés qui sont en train de quitter ou ceux qui quittent le Mali, qui viennent chez nous, qui sont des demandeurs d'asile, sont obligés de se conformer à un certain nombre de réglementations. Ils n'ont pas d'immunité, ils n'ont pas de privilèges particuliers au-delà de ce que le Burkina Faso accorde aux citoyens burkinabés. Donc c'est pour venir nous entretenir avec les forces de défense et de sécurité pour avoir leur point de vue. Qu'est-ce qui se passe dans les frontières? Comment ils collaborent avec ces demandeurs d'asile et ces réfugiés qui habitent le Burkina Faso? Et comment, en réalité, la collaboration se fait aussi avec les acteurs humanitaires?
L'initiative du SPCONAREF est saluée par les FDS. Zakaria Ouedraogo, représentant le directeur régional de la police nationale.
Cette formation est la bienvenue et en tant que force de défense et de sécurité. Dans la gestion de ces réfugiés, il y a des difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau des frontières. Et il faut vérifier les identités des uns et des autres, savoir qui ils sont, et afin de prendre attache avec la hiérarchie et voir comment ils vont en tout cas être accueillis ici. Souvent, ils sont dépourvus de documents pouvant identifier voilà, ces gens-là, c'est compliqué.
Le Burkina Faso enregistre à ce jour plus de 22 000 réfugiés venant à majorité du Mali.
Antoine Bonny, parlant justement du Mali, alors que certains politiciens sont déjà dans la mouvance de la pré-campagne pour les élections générales de 2022, surtout la présidentielle, des doutes sérieux subsistent encore sur ces échéances. Le débat fait rage sur les réseaux sociaux et au sein de l'administration publique, étant donné que les Maliens sont divisés sur la durée de la transition. Le Burkina Faso participe depuis hier à la formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet. Initiée en 2015, cette septième édition se tient en visioconférence en raison de la COVID-19. La formation regroupe des experts et professionnels éthiques des 13 pays africains et dans le monde. Elle veut les outiller sur la protection de l'Internet et sa souveraineté et lutter contre la cybercriminalité dans le continent. Sur plus de 400 candidatures, 100 ont été sélectionnées. Nous écoutons donc Adja Ouattara Sagnon, la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, au micro de Momouni Yaro.
Il est important que les États participent à ces échanges ou gérer ces ressources critiques d'Internet pour assurer leur souveraineté numérique. Et pour participer, il faut être outillé. Il faut déjà comprendre comment fonctionne tout ça. Et ce séminaire a comme objectif d'outiller les experts africains, surtout francophones, pour pouvoir participer à ces cadres donc, d'échange et assurer la souveraineté numérique de l'Afrique et protéger les ressources critiques d'Internet. Et ce séminaire se tient à un moment où le registre africain traverse une crise en ce qui concerne la gestion de ces ressources critiques. Donc il est important de comprendre comment tout cela fonctionne afin de sauvegarder ces ressources critiques et de mieux utiliser ces ressources critiques. Sinon, c'est le fonctionnement de l'Internet en Afrique qui est en danger.
Et dans le cadre du projet d'accompagnement de renforcement des capacités pour améliorer la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de politique emploi-formation des jeunes, le bureau pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan tient depuis hier à Ouagadougou un atelier national consultatif sur l'état des lieux en matière d'emploi de formation. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée ce mardi à Ouagadougou et on en sait plus avec Régis Boni.
L'objectif de cet atelier national consultatif est de diagnostiquer l'ensemble des difficultés qui entravent la conception des politiques nationales en matière d'emploi-formation et de renforcement des capacités des acteurs nationaux à la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de l'ensemble des projets en matière d'emploi-formation. Salifo Tiemtoré, ministre en charge de l'emploi.
Nous sommes là ce matin pour un atelier national pour essayer donc de réfléchir sur la conception donc, d'un projet sous-régional qui vise donc, le renforcement de la conception, la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des politiques, plans, programmes et projets et en matière donc, d'emploi et de formation.
Ces politiques nationales en matière d'emploi-formation qui n'arrivent pas à satisfaire l'ensemble des objectifs fixés constituent donc un obstacle à la capitalisation des résultats, ce qui empêche d'avoir un réel cadrage des politiques à mettre en œuvre. Salifo Tiemtoré, ministre en charge de l'emploi.
C'est fait de façon disparate. Donc ça nous empêche d'avoir donc une réelle conception, un réel cadrage de l'ensemble donc, des politiques que nous voulons mettre donc, en œuvre. Donc ça va être donc, réellement un plus. Et dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation de l'ensemble donc, des politiques, plans et programmes mis en œuvre dans le cadre de la formation et de l'emploi.
Prévu se tenir jusqu'au 25 août prochain, l'atelier national consultatif sur l'état des lieux en matière d'emploi-formation devra donc permettre d'améliorer la mise en œuvre des politiques nationales fortes en matière d'emploi et de formation.
La personne humaine est la plus précieuse des richesses. C'est dans cet esprit que la députée Adia Kongo a organisé ce mardi une journée de don de sang en collaboration avec les habitants de la Padoie dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. L'objectif étant bien entendu de venir en aide aux malades durant cette période de forte demande. On en sait plus avec Abdelaziz Zoulabou.
La demande en don de sang est importante au Burkina Faso. Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies graves, les drépanocytaires et les malades du paludisme sont autant de patients nécessitant une transfusion sanguine. Initiée par la députée Adia Kongo, habitante de la Padoie, ce don de sang a mobilisé des leaders d'associations féminines de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Il s'agit de soulager les centres de santé et surtout les malades dans cette période de forte demande. Adia Kongo ne tient de Beogo. Initiatrice de la journée.
Nous avons initié cette activité ce matin pour donner du sang au profit des malades. C'est un acte de solidarité. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de sang en vente. Et c'est un liquide précieux, vital. Sans le sang, il n'y a pas de vie.
La saison pluvieuse est une période d'assèchement des banques de sang au Burkina. C'est pour améliorer la situation que Boukari Kabré partage le liquide précieux depuis des années. Aujourd'hui médecin, il connaît encore mieux les situations qui peuvent occasionner un besoin en sang. Boukari Kabré, donneur.
Le besoin est très important à tous les niveaux, en maternité, en pédiatrie, en chirurgie, etc. et même au niveau des accidentés. C'est pour cela que nous avons décidé de faire ce geste.
Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pendant cette période de forte demande pour inciter les jeunes à donner leur sang. Et cette initiative de la députée Adia Kongo est la bienvenue. Jean Ouedraogone Iloudo, responsable de l'équipe en charge de la collecte.
Nous saluons ces gens d'initiative, que ça se répète. Voilà, parce que ça nous aide quand on travaille et qu'on a beaucoup de poches, ça nous permet aussi de satisfaire ceux qui viennent vers nous.
Selon la directrice du Centre régional de transfusion sanguine, la demande journalière en 2020 était de 35 poches pour 150 personnes en saison pluvieuse.
Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, la patiente guinéenne atteinte du virus Ebola est guérie, a annoncé les autorités ivoiriennes. Le porte-parole du ministère ivoirien de la Santé a déclaré ce mardi, je cite, « Après avoir réalisé deux tests biologiques négatifs en 48 heures, les résultats se sont avérés négatifs et son isolement a été levé. » Fin des citations. Le porte-parole du ministère de la Santé a aussi précisé qu'elle est maintenue en hospitalisation car la patiente est encore fatiguée. Il faut rappeler que ce sont 5000 doses de vaccins qui ont été reçues par la Côte d'Ivoire le 17 août dernier et la campagne du groupe cible a été déployée à la frontière de la Guinée. L'ancien président tchadien est décédé hier mardi des suites de la COVID-19 à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé ces derniers jours à Dakar, donc au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité après avoir contracté la maladie. Le portrait du président Abré avec Benabé Kabré.
Combattant du désert, chef de guerre, les qualificatifs abondent pour exalter les qualités militaires de Hissène Habré du temps de sa conquête du pouvoir. Et pour cause, son parcours dans les années 1970 et 1980 s'inscrit dans l'histoire agitée du Tchad indépendant dont il a été le troisième président. Hissène Habré a grandi dans le désert, au milieu de bergers nomades et se fait remarquer par ses maîtres. Devenu sous-préfet, il part étudier en France en 1963. De retour au Tchad en 1971, il rejoint le Front de Libération Nationale dont il prend la tête avant de fonder le Conseil des Forces Armées du Nord. À partir de 1974, Hissène Habré se fait connaître à l'étranger en retenant en otage durant 3 ans l'ethnologue française Françoise Clostre, obligeant la France à négocier avec la rébellion. Il sera ensuite Premier ministre, puis ministre de la Défense et président du gouvernement d'Union nationale créé en 1979. Nationaliste convaincu, il est farouchement opposé aux dirigeants libyens de l'époque Muammar Kadhafi. Fin 1980, il déclenche une guerre pour entrer victorieusement en N'Djamena en 1982. Son régime, soutenu par la France et les États-Unis, va durer 8 ans. Cette période est marquée par une terrible répression. Les opposants sont arrêtés, torturés, souvent exécutés. Une commission d'enquête estimera à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées sous son règne. En décembre 1990, Hissène Habré quitte précipitamment N'Djamena, fuyant l'attaque éclair des rebelles d'Idriss Déby Itno, un de ses généraux, tué en avril 2021 par des rebelles. Chassé du pouvoir, Hissène Habré trouve refuge à Dakar pour un exil qui sera paisible pendant plus de 20 ans. Avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, il est finalement arrêté en juin 2013 à Dakar. Le 30 mai 2016, il est condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci de l'avoir suivi. Réécoutez en intégralité ce journal en podcast sur nos différentes pages Facebook et Twitter.
Radio Omega, l'info en direct.